Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien.
Vous écoutez l'épisode numéro 15 du podcast Les enfants vont bien. La place que nous souhaitons ou ne souhaitons pas laisser aux donneurs est une donnée importante à baliser avant même de commencer nos recherches, dans les premières idées que nous jetons sur le papier. Si ces décisions ne sont pas simples à prendre, pour Barbara et Marie toutefois, le choix du donneur a été une évidence. Elles avaient un donneur tout trouvé, qui, de plus, a accepté leur demande avec un plaisir non fin. Ce donneur n'est autre que l'ancien compagnon de Barbara, celui qui a vu leur histoire naître et qui a accepté de se retirer quand il n'avait plus sa place. C'est alors tout naturellement qu'aujourd'hui, Barbara et Marie ont choisi de lui laisser une vraie place dans la vie de leur fils, en le laissant libre de choisir l'engagement qu'il souhaitait y apporter, et, je vous le donne en mille, qu'il a prise avec toute la symbolique qu'elle représente. Il est un paparin, plus qu'un parrain et moins qu'un papa, comme le désigne si bien Barbara. Et c'est bien cette différence qui exclut la coparentalité de cette composition familiale. Leur famille, elle le savait, Barbara et Marie la voulaient à deux. Gaspard a bien deux mamans, l'adoption a été prononcée et l'acte de naissance est très clair. Il a aussi un donneur, présent dans sa vie à la hauteur qu'il le souhaite, et la facilité avec laquelle est vécue cette situation la rend simple. Cette famille respire le bonheur. Je vous invite à découvrir cet épisode et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Barbara.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup d'être disponible ce soir. On y est enfin arrivé.
Oui, merci beaucoup. Je te remercie.
Super. Pour cet enregistrement, est-ce que tu peux te présenter, me présenter un petit peu ta famille, me raconter qui vous êtes et ensuite me raconter un petit peu votre histoire.
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Barbara, j'ai 42 ans. Je vis avec Marie, qui va avoir 35 ans cette année, et Gaspard, qui a eu 2 ans le 15 février. On est mariés depuis juillet 2016, et on se connaît depuis fin d'année 2013. Voilà, on s'est rencontrés à une fête chez des amis à elle, qui n'étaient pas encore des amis à moi, mais j'avais été invitée avec mon compagnon de l'époque à cette fête, et j'y ai rencontré Marie. On s'est revus au 31 décembre de la même année parce qu'on était de nouveau invités, chacune séparément, mais à la même fête, au même endroit. Et voilà, et elle m'a intriguée. Elle était dans une phase où elle n'allait pas très très bien parce qu'elle venait de perdre son grand-père et elle avait un petit côté mystérieux, un peu lointain, qui m'a pas mal intriguée. Voilà, ça sonne le début de notre relation commune.
D'accord, donc vous vous êtes rencontrés sur cette soirée. Quelle était votre histoire, puisque tu me dis que tu étais invitée avec ton compagnon, quelle est ton histoire précédente?
Et ben, on était toutes les deux en couple à l'époque avec un homme. On n'avait jamais eu de relation homosexuelle, ni l'une ni l'autre. D'ailleurs, on ne se définit pas du tout ni comme lesbienne, ni comme homo, ni comme... D'ailleurs, on ne se définit pas, tout simplement. On dit juste on est tombée amoureuse c'était elle et c'était moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, d'un autre, enfin de l'autre sexe, c'était pareil. C'est-à-dire que voilà, on est tombée amoureuse d'une personnalité, d'une personne et pas d'un genre.
D'accord.
Voilà. Moi, j'étais à l'époque en couple avec Cyril depuis presque 10 ans, et Marie était de son côté en couple avec quelqu'un depuis 2-3 ans. Je sais plus exactement, 2-3 ans, mais elle venait tout juste d'emménager chez lui puisque ça datait de novembre.
Voilà. Oui, donc pour elle, c'était tout frais. Elle était dans une phase plutôt de construction.
C'était censé être une phase de construction. Il s'est avéré qu'en fait, ça ne l'a pas été pour différentes raisons qui leur sont propres, enfin qui sont propres à leur couple, mais ça ne l'a pas été.
D'accord. Donc ce soir-là, tu rencontres Marie. Votre histoire se construit comment ?
Notre histoire se construit à la fois très vite et à la fois à petits pas, parce qu'on était donc toutes les deux engagées dans des relations. De mon côté, parce que c'est plus facile de parler de moi, de mon côté, j'avais pas envie de briser une relation préexistante, d'autant que on avait eu avec Cyril des moments plus ou moins faciles, et ça expliquera des choses que je te raconterai sans doute plus tard, donc je vais pas m'étendre dessus tout de suite. Mais voilà, on avait trouvé un équilibre qui fonctionnait. On va dire qu'on s'était donné l'opportunité de vivre d'autres choses en dehors de notre couple. Même si ça ne s'était pas fait, c'était quelque chose qui était théorique, mais on n'avait pas encore franchi ce pas-là. On en parlait parce qu'on sentait bien qu'il nous manquait quelque chose à nous, qu'on n'arrivait plus à puiser dans notre couple. Néanmoins, on n'avait pas envie de briser ce couple parce que pour plein d'autres égards, il nous convenait très bien, il nous apportait plein de choses. Mais voilà, j'ai rencontré Marie dans ce contexte-là. Et de son côté, donc elle venait d'emménager chez quelqu'un avec qui elle avait une relation de 3 ans, mais elle sentait, sans trop savoir pointer le doigt dessus, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle se sentait pas vraiment chez elle dans cet appartement. Elle mettait des petites stratégies en place pour pas être là tous les soirs, tu vois. Elle était pas spécialement à l'aise là-bas.
Elle avait du mal à s'investir.
Voilà, elle avait beaucoup de mal à s'investir, et je pense que le compagnon qu'elle avait ne l'aidait pas à s'investir non plus dans cette relation. Et donc on s'est rencontrés mi-décembre, on s'est revus fin décembre, on a bien senti qu'il y avait quelque chose qui naissait, une espèce de petite étincelle. On s'est rien interdit du tout, elle est partie en vacances en famille chez ses parents, puis chez ses beaux-parents pour les fêtes. On a beaucoup échangé par message. On n'a pas fait de plan ni rien du tout, mais on s'écrivait beaucoup, des trucs à la fois très banals de début de relation et des trucs assez un peu plus profonds, un peu plus intimes. Et quand elle est rentrée, on s'est revus un petit peu. J'ai bien senti qu'en février, on commençait vraiment à avoir plus qu'un gros crush. Et ça a duré comme ça presque 2 ans. Une grosse année de début 2014 à mars 2015. On a eu des hauts, des bas dans notre relation. On passait ensemble des week-ends où son mec était pas là, j'allais chez elle. On se voyait beaucoup. Elle venait très souvent le matin chez moi avant d'aller bosser. Elle passait prendre le café. On s'est retrouvés beaucoup dans des cafés aussi pour prendre des cafés. On a essayé de grappiller des moments par-ci par-là. sans faire de plan, sans faire de projet, sans parler vraiment du futur.
Vous n'avez pas eu de difficulté à faire le tri dans vos sentiments, dans la mesure où vous ne vous étiez pas...
Bah, si, on a eu beaucoup de sentiments, je pense que ça a été dur. On a eu, dans notre relation à toutes les deux, à ce moment-là, on a eu une rupture. Tu vois, un jour, je lui ai dit, écoute, je peux plus, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, ne savait pas comment, ne savait pas si on avait un avenir... moi j'en savais rien non plus, mais au moins j'avais envie d'explorer le truc, j'avais envie de voir où ça pouvait nous mener, et j'avais pas envie de mensonge, j'avais envie, tu vois, moi mon compagnon donc Cyril savait très bien que j'avais rencontré quelqu'un, était là quand je l'ai rencontré, bien vu que ça me voulait, m'a laissé mener m'a complètement laissé libre de mener cette on va dire expérience, même si c'est pas expérience au sens scientifique du terme, mais voilà, de mener ce truc, de voir où ça pouvait aller. Peut-être qu'il a eu peur pour lui, pour nous, je sais pas, mais en tout cas, il m'a laissé libre de le faire. Je pense que Marie se mettait plus d'interdits que moi, et surtout, elle mentait à son compagnon de l'époque, tu vois. Il savait que j'existais, mais comme il le supportait pas, parce que ça le mettait énormément en danger, ce que je comprends, elle lui mentait tout le temps. Elle lui disait jamais qu'elle me voyait. Et ça, moi, je le supportais pas, parce que même si je ne savais pas quel était l'avenir qu'on pouvait avoir ensemble, je ne voulais pas qu'il parte éventuellement sur des bases de mensonges. J'ai beaucoup problème avec le mensonge. Donc, je voulais pas du tout que ça parte sur une base de mensonge. Donc, ça, voilà, il y a vraiment eu des hauts et des bas dans ce tout début de relation. Et un jour, en mars 2015, un soir, elle sonne à ma porte et elle est jamais repartie.
D'accord.
Voilà. Elle est arrivée, elle m'a dit, je retournerai pas chez moi. Ok. Et elle est restée 2 mois chez moi. Ça tombait à un moment donné où Cyril, lui, n'était pas là, donc ça n'était pas un problème.
Voilà, ça pouvait être compliqué.
Ouais. Non, c'était pas un problème pour ça. Il n'était pas là. Elle a pu poser, je vais pas dire poser ses valises parce qu'elle avait franchement rien. Elle est partie de chez elle. En gros, ils sont allés à un concert, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et en sortant du concert, elle a décrété qu'elle ne montrait pas dans le métro avec lui, quoi. Et donc, elle a déboulé chez moi.
D'accord.
Et voilà. Et à partir de là, on s'est vraiment posé des questions sur qu'est-ce qu'on voulait pour nous. Est-ce qu'on avait un avenir? Comment? Et puis comment? Parce que moi, j'étais finalement toujours quand même dans ma relation avec Cyril, que je n'avais pas rompu. Je savais pas si j'avais envie de la rompre, je savais pas comment. Et puis elle avait pas d'endroit où aller, tu vois. Elle était partie et puis un peu sans se retourner et sans avoir de plan pour la suite.
Non, elle avait pris une décision brutale finalement.
Ouais, elle avait pris une décision brutale. Elle m'avait choisi en fait. Voilà. Après un an et un peu à pas savoir trop comment faire, elle m'avait choisi. Et donc voilà, on a beaucoup discuté, et puis elle me dit, il me faut un appart. Je lui dis, oui, mais il n'y a pas d'urgence, tu vois, tu peux rester ici, tu prends pas le premier truc venu, prends le temps de te poser, prenons le temps de discuter. Et donc, pendant 2 mois, elle a cherché un appartement qui serait ce qu'on pensait être son appartement, mais en même temps, elle savait que j'y serais investie. Donc, elle a signé pour un petit appart qui a été notre premier appart jusqu'à il y a presque un an et demi. Et donc, en mai 2015, elle a eu les clés de ce petit appart qu'elle m'a absolument tenu à me faire visiter parce qu'elle voulait que ça soit aussi chez moi. Et voilà, je dis qu'on a emménagé ensemble. À ce moment-là, même si moi j'avais encore un pied dans l'appartement que j'occupais avec Cyril et encore un pied dans cette relation que j'avais du mal à finir, on va dire. Je dis maintenant qu'elle est terminée, mais je pense qu'elle s'est réellement terminée en gros à la naissance de Gaspard.
D'accord, c'est à ce moment-là que tu as réussi à construire ta famille.
C'est ça. Je pense que le fait d'avoir construit ma famille a fait que Cyril est ma famille. Il fait partie de ma famille par la force des choses. mais néanmoins, il n'est pas ma famille proche, il n'est pas mon noyau familial.
D'accord.
C'est quelque chose auquel Marie tenait énormément dans le choix du donneur de Gaspard. Effectivement, on a un donneur connu, mais elle voulait que ce soit nous, les parents.
Oui, voilà. Ce qui est très important aussi.
Voilà, je pense qu'elle a eu entièrement raison, et moi je pense que ça m'a pris peut-être plus longtemps qu'elle à formaliser comme ça. Je voyais très bien que je voulais être la maman de Gaspard, que Marie, par la force des choses, puisque c'est elle qui le porterait, serait la maman de Gaspard, mais je pouvais envisager une parentalité plus partagée, oui. Tu vois, quelque chose qui serait plus de l'ordre de coparentalité. Elle m'a mis une barrière tout de suite, et je pense qu'elle a eu raison. Voilà. À l'heure actuelle, on a un process qui fonctionne très bien. Donc, on vit toutes les deux avec Gaspard chez nous. Et à côté de ça, Gaspard a une relation avec son donneur et qui est une très belle relation. Et on n'a pas du tout envie d'enlever ça, mais néanmoins, ça n'est pas son parent.
D'accord. En fait, je le précise du coup maintenant. Tu dis que Cyril, par la force des choses, a un lien familial avec vous. Parce qu'il est le donneur.
Le donneur de Gaspard. Ouais. Oui.
Et ça, c'est.
Exactement.
Ce qui fait que je comprends que tu aies eu du mal aussi à terminer ta relation. Parce que, il reste lié à vous par la force des choses, finalement.
Il reste extrêmement lié à nous par la force des choses. Mais c'est quelque chose qu'on souhaitait. Enfin, quand on a formalisé le fait que ce serait lui. Ce qui a pris pour chacun d'entre nous un certain temps quand même. Quand on a formalisé ça, on savait que, évidemment, puisque le but était que Gaspard connaisse son donneur, c'était pas pour que il entre dans sa vie et il en ressorte. Sinon, on pouvait aussi bien faire appel à un donneur inconnu. Nous, on avait envie d'une présence. On avait envie que Gaspard puisse savoir d'où il venait, savoir que il est là grâce à quelqu'un qui nous a fait ce don-là à nous deux, mais que cette personne est réelle, enfin tu vois, qu'elle a une vraie consistance. Mmh.
Donc je suppose que votre relation, votre histoire s'est terminée en bons termes avec Cyril, sinon vous n'en seriez pas là.
Ah oui, on est en très très bons termes, on se voit plusieurs fois par semaine, parce qu'on a cette chance-là d'être plutôt proche géographiquement, pour t'expliquer un peu, la nounou qui garde Gaspard habite et travaille donc à quelques minutes de chez Cyril, et que c'est moi qui m'occupe de Gaspard le matin et qui l'emmène chez la nounou, et donc... à peu près, on va dire, en moyenne deux fois par semaine, Gaspard et moi allons prendre le petit déjeuner chez Cyril.
Oui.
Donc, il se voit au minimum ces deux fois par semaine, plus régulièrement le week-end. On se voit beaucoup. Mm-hmm. On le fait pas de façon... On se sent pas obligé de le faire. On a quand même des liens qui sont devenus amicaux par la force des choses. Cyril continue à dire que je suis la personne qui le connaît le mieux et qu'il est sans doute la personne qui me connaît le mieux. Ça, c'est sans doute assez vrai. Donc, mm-hmm. on a cette espèce de lien qu'on n'avait pas envie de briser. Et on essaye de créer pour Gaspard un lien avec son donneur.
D'accord.
Mais qui reste son donneur. Enfin, nous, on l'appelle pas parrain, mais qui est son donneur, en fait.
D'accord. Alors, du coup, on va revenir sur... Donc sur votre désir d'enfant avec Marie, parce que bon, il a déjà fallu que vous fassiez le travail de construire votre relation, de comprendre que vous vous aimiez et d'avancer. Ensuite, la partie désir d'enfant, c'est pareil. Je pense que tu n'y avais pas réfléchi avant, en tout cas dans cette configuration-là.
Non, pas dans cette configuration, évidemment. Moi, j'ai toujours eu un désir d'enfant jeune. Mm-hmm. Je pense que trouver la bonne personne à 18 ou 20 ans, j'avais eu des enfants à cette époque-là. Ça s'est pas fait à cette époque-là. Ensuite, j'ai rencontré Cyril qui, lui, m'a toujours dit que lui, des enfants, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas la responsabilité d'être papa.
D'accord.
Voilà. La responsabilité de l'enfant, il n'est pas du tout prêt à la prendre en charge. Et c'est aussi pour ça qu'il se retrouve très bien dans ce rôle de pas parrain, qui est plus qu'un parrain, mais qui n'est pas un papa, Parce que oui, il passe du temps avec Gaspard, avec moi, avec Marie, ou juste tous les deux, ou lui, Gaspard et donc la compagne de Cyril actuelle, ils peuvent passer du temps tous les trois ensemble. Néanmoins, à la fin, il me le rend, tu vois. Il, voilà, ça n'est pas son fils, il n'en a pas la charge et ça lui convient absolument. Ce qui nous convient bien aussi, puisque justement, on voulait nous être les parents ou les marrantes, comme dit un de nos copains. Oui. Les marrantes de Gaspard.
Terme, ouais.
Ouais, c'est assez rigolo. Voilà, on voulait que ça soit notre cellule familiale.
Ouais.
Donc pour l'instant, on trouve chacun notre compte. Donc moi, ce désir d'enfant, ouais, je l'ai eu jeune, mais il a jamais été assouvi. Et j'avais même fait le deuil de ça, pour plusieurs raisons, parce que j'avais 38 ans quand Marie m'a dit « moi, j'aimerais bien des enfants ». Bon, bah, 38 ans, tu te dis que c'est peut-être pas... Enfin, quand t'arrives à 38 ans sans enfants, c'est que tu te dis sans doute que tu n'en auras pas. Dans mon cas, c'était ça. J'étais avec un compagnon qui n'en voulait pas. Et que par ailleurs, on m'a découvert sur le tard un problème d'utérus qui fait que des enfants, il est très peu probable que je puisse en porter. D'accord. Donc voilà, moi j'avais fait une pause pour ça. Et Marie arrive avec son désir de construire avec moi quelque chose et que ça passe par « mais moi j'aimerais bien au moins un enfant ». Alors elle m'a vendu le truc entre guillemets en me disant « un enfant pour essayer ». Mais voilà, il me dit « moi j'aimerais bien qu'on ait un enfant ».
D'accord.
Donc bon, ok. Donc ça a été pour moi tout un processus inverse de me remettre dans une potentialité d'être mère et ça n'a pas été facile. Ça m'a pris du temps, tu vois, d'accepter après avoir fait une croix sur ça qui m'a toujours donné envie. Ça m'a pris du temps d'accepter de pouvoir, enfin d'avoir l'opportunité à nouveau de pouvoir être mère.
Parce que tu avais peur de quelque chose ou c'était vraiment tu avais fait le deuil et
J'ai toujours ce sentiment d'être une vieille maman. J'ai 42 ans, j'ai un fils de 2 ans. J'ai l'impression de fatiguer très vite. J'ai l'impression d'avoir perdu ma patience, de perdre ma patience plus vite que Marie et que c'est lié à mon âge. J'ai l'impression. Puis je me projette dans le futur, tu vois. Je me dis, mais moi déjà, je trouve que mes parents m'ont eu tard. Moi, mes parents m'ont eu. Ma mère avait 30 ans et mon père en avait 37. Derrière, ils m'ont eu ma petite sœur 4 ans après. Donc, mes parents étaient pour moi des parents. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais ce sont pour moi des vieux parents. Tu vois, là, je m'inquiète pour mon papa. Il a 80 ans cette année. Ouais. C'est pas un papa jeune. Et je me dis, moi, j'aurais eu Gaspard tard. Ça veut dire que quand il aura 10 ans, j'en aurai 50. Est-ce que je vais être suffisamment en état pour continuer à faire, je ne sais pas moi, du vélo avec un gamin de 10 ans? Est-ce que je vais pouvoir suivre ça? Est-ce que par ailleurs, si lui, il a des enfants tard, est-ce que je connaîtrai mes petits-enfants? Je me projette beaucoup dans ce futur-là et ça me, il y a beaucoup de choses qui me bloquent de me mettre dans une maternité à l'époque, de me mettre dans une maternité à 38 ans, ça me paraissait vieux, enfin. Je pense que ça n'est pas du tout.
Non, ça n'est pas. Et puis après, les enfants entretiennent la jeunesse. Hein, donc, je pense que tu n'auras pas trop de soucis à faire.
C'est ce que tout le monde me dit, ouais. Mais voilà. Et au quotidien, je ne me sens pas vieille hein, du tout. C'est juste, ça a été longtemps mon point d'achoppement avec Marie. Je dis, mais je ne pourrais pas mettre maman. Admettons, je vais avoir 40 ans quand il va naître. C'est vieux. Enfin, je me mettais vraiment ça comme une énorme barrière. Voilà, au quotidien.
Qu'est-ce qui a déclenché du coup, enfin, quel était le phénomène déclencheur de l'acceptation de cette maternité?
Le phénomène déclencheur d'acceptation, c'est qu'en fait, des enfants, j'en ai toujours voulu. Mmh. Voilà, j'ai toujours eu envie d'être maman, j'ai toujours eu envie de je pense que j'ai un côté maman poule, pas tellement maman louve, mais maman poule. Je suis une poule avec mes poussins, quoi. C'est moi au quotidien qui gère beaucoup la maison, c'est moi qui fais la cuisine. J'ai ce truc d'avoir envie que les gens soient, enfin que ma famille soit bien chez elle, de créer ce petit cocon familial hyper protecteur. J'ai toujours eu envie de ça.
D'accord.
Donc c'est sûr que quand ma mère est arrivée en me disant « moi je veux un enfant », bon, ça m'a fait un choc, mais au final, ouais, grave, des enfants, mais bien sûr, quoi. Enfin, à l'époque, c'était un, mais un enfant, bien sûr, évidemment, bien sûr que je veux un enfant. Et qu'elle me paraissait être la bonne personne avec qui l'avoir, parce que, parce que elle a toutes les qualités que moi je n'ai pas. Elle est beaucoup plus mesurée, elle a beaucoup plus de patience, elle est ouais, je trouve qu'on au quotidien on a un couple parental génial, on se complète vachement bien. Mm-hmm. C'est chouette.
Oui, c'est clair, c'est hyper important. C'est hyper important.
Bon, bah ouais.
Et alors, enfin, donc vous avez réfléchi, je suppose, au comment dès ce moment-là, parce que bon, le
alors on a réfléchi au comment.
A priori, c'était très clair dès le départ, mais le comment.
Ouais. Le qui porterait, c'était très clair. Marie était plus jeune que moi. À l'époque, elle avait 32 ans. Elle avait aussi un boulot salarié, ce qui n'était pas mon cas, donc c'était plus facile pour elle d'avoir un congé maternité. Elle avait un utérus en état de marche, ce qui est quand même vachement pratique.
C'est mieux.
Voilà, donc, on ne s'est pas posé la question de qui le porterait, on s'est posé la question de comment on le ferait, ça, c'est sûr. Et en fait, je ne saurais pas te dire laquelle de nous deux a eu cette espèce de flash, de se dire mais il nous faut un donneur connu, quoi. On s'est rendu compte en discutant qu'on avait envie que Gaspard ait un arbre généalogique qu'il puisse tracer, qu'on avait envie de pouvoir l'inscrire pas dans une filiation, mais dans une descendance de quelque chose.
Oui, de l'ancrer dans ses racines, en fait.
Enfin, de l'ancrer dans ses racines. Par ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces couples qui font un énorme sacrifice financier, parce que la PMA à l'étranger, c'est quand même un gouffre financier. Et voilà, et quand on a calculé un peu ce que ça nous coûterait, on s'est dit on va jamais le faire rapidement. Donc c'était aussi un des choix pour lesquels on s'est dit waouh, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut, enfin, vu qu'on en parle maintenant, il faut qu'on économise, et donc ça va nous prendre X mois. Donc on voyait s'éloigner de plus en plus le projet, et nous on a eu besoin de construire ce projet quasiment dès le départ. Donc voilà, pendant tous les premiers mois où on parlait de cet enfant sans l'avoir fait, on commençait à lui acheter des petites choses, tu vois, on faisait vivre ce projet, donc on savait qu'on voulait pas que ça soit dans 5 ans.
Oui,
quoi.
Il fallait que ça aille un peu vite.
Ouais, il fallait que ça soit un peu plus rapide que ça. Et puis on avait aussi envie de quelque chose qui soit naturel, qui soit pas... Marie, elle voulait pas avoir un suivi médicalisé très procédural. Elle voulait, tu vois, on a choisi une sage-femme, elle a jamais vu un gynéco, notre sage-femme est un mec super, je pense que s'il l'a ausculté deux fois, c'est le grand maximum. Voilà, elle a eu très peu d'actes médicaux, enfin, tout a été super naturel, je pense qu'elle avait aussi envie de ça, de quelque chose qui soit simple. Mm-hmm. Voilà.
D'accord.
Et du coup, voilà, on était en vacances en Italie, et puis ça nous a fait un flash, quoi. On s'est dit, mais en fait, il faut qu'on demande à Cyril s'il a envie de nous aider. Et je suis rentrée de vacances, j'ai pris quelques jours avec Cyril, et je lui ai dit, voilà, Marie, elle me dit qu'elle veut un bébé. Et là, Cyril me regarde et me dit, mais fonce, c'est ce dont tu as toujours eu envie. Ouais.
Il ne s'est pas rendu compte de ce...
Ouais, c'était bien vu de sa part. Je lui ai dit, ouais, est-ce que tu veux être le donneur? Et là, il m'a regardé, il s'est mis à pleurer, il m'a dit, ouais, évidemment.
Ah oui, ça lui a pas pris plus longtemps que ça de réflexion, en fait.
Non, parce qu'en fait, vraiment, ce que j'ai compris, ce qui, moi, m'a toujours dérangé chez lui quand j'étais en couple avec lui et que moi, j'avais ce désir d'enfant, c'était que je ne comprenais pas qu'il ne veuille pas d'enfant. Tu vois, je ne comprenais pas qu'il ne se projette pas comme papa. Mmh. Je trouvais à l'époque qu'il ferait sans doute un père génial et qu'il avait quelque chose d'assez naturel avec les enfants, et je ne comprenais pas qu'il n'ait pas envie de ça. Et en fait, je crois que ça m'est sauté aux yeux quand il m'a dit oui pour être donneur. J'ai compris ce truc de oui, si je suis le donneur, je ne suis pas le papa.
Ouais.
Ça n'est pas mon enfant. Et ça lui ouvrait la porte. Ça lui ouvrait ce champ de possible de construire une relation avec un enfant, mais de ne pas en avoir la responsabilité. Alors, je ne sais pas si c'est une sorte de lâcheté de sa part ou de désengagement, néanmoins. Au quotidien, on se rend compte là qu'il est présent pour Gaspard quand il y a besoin, Il est capable, lui, de proposer des choses et des activités avec Gaspard. La relation qui se crée entre eux est vraiment une belle relation, mais c'est exactement la relation dont il avait envie et besoin. C'est ça.
Oui, tu vois, alors, il n'avait pas envie de la responsabilité d'être parent, en fait.
Non, il n'avait pas envie de la responsabilité d'être parent. Vraiment pas.
D'accord.
Mais par contre, il n'y avait aucun problème avec le fait de devenir donc le donneur. À l'époque, on n'avait pas encore ce terme de paparin, mais de devenir le donneur de Gaspard et de nous permettre à nous d'être deux mamans comblées.
Oui, c'est...
Voilà, donc il me dit oui, bien sûr, évidemment. Et puis là, en fait, dans notre tête, à Marie et moi, quand je lui en parle, ben, tout s'enclenche. On se dit, ok, ça veut dire que bon... Moi, je veux être sa maman à 100%, c'est sûr, tu vois. Je veux être la maman de Gaspard, donc ça veut dire qu'il faut que je puisse l'adopter. Donc, pour pouvoir l'adopter, il faut qu'on se marie. Alors, il faut qu'on se marie. Voilà, donc on a balisé tout le reste du chemin. Et on a fait les choses, à partir du moment où la décision était prise, on a fait les choses relativement vite. Donc, on s'est décidé en septembre 2015. On s'est marié en juillet 2016. Et on a fait le premier essai en mai 2017.
Vous vous êtes mariée par rapport justement à la filiation de Gaspard ou c'était en projet?
Alors on s'est mariée par rapport à la filiation de Gaspard. Je pense qu'on n'aurait pas eu Gaspard, on ne se serait jamais mariés. Moi je ne suis pas du tout une pro du... Enfin, j'avais pas un désir particulier de mariage. J'ai plein de couples autour de moi qui fonctionnent sans être mariés et qui sont des couples stables sur lesquels personne ne se pose de questions. Mm-hmm. Donc j'avais pas besoin de me dire il faut qu'on se marie pour être un couple. Quoi. On s'est vraiment mariés parce que je voulais pouvoir adopter Gaspard et que Gaspard ait mon nom de famille et puis que je sois sa maman, voilà, que je sois aux yeux des autres sa maman. Parce que pour le coup, je ne me suis jamais posé de questions. Je suis, depuis le début, je suis sa maman.
Oui, et c'est le cas, en fait, en réalité.
Oui, c'est le cas, c'est la réalité. Mais voilà, j'avais juste besoin d'avoir cette reconnaissance légale du truc. Voilà.
D'accord.
Ça me rassurait. Je savais que je voulais pouvoir l'adopter.
D'accord. Donc, tu me dis premier essai pour Gaspard en septembre 2016 ?
Mai 2017.
D'accord. Vous avez fonctionné par le biais d'une insémination artisanale, si ce n'est pas indiscret et si tu souhaites évoquer le sujet?
Ouais, on a fonctionné par le biais d'une insémination artisanale. On avait une copine infirmière qui nous avait fourni en seringue et gobelet stérile. Mm-hmm. On a fait ça dans notre petit appart à toutes les deux. Cyril est venu deux soirs de suite. Et voilà, et on a fait... Il a fait son petit don de sperme dans son petit gobelet et j'ai fait l'insémination à Marie et on s'est tous bu une bière sur le canapé à la fin. C'était à la fois très bizarre et très détendu. Voilà. On a mis longtemps avant de savoir comment on voulait pouvoir le faire. Tu vois, on savait que ça serait une insémination artisanale, mais on savait pas en pratique voilà, comment est-ce qu'on serait détendu, comment ça se passerait, etc. Puis en fait, voilà, on va dire, au moment où on s'est lancé, on dit allez, c'est bon, Marie, elle avait surveillé ses ovulations avec une appli les 3-4 mois précédents, et voilà. Puis un jour, elle nous a dit bon, bah là, c'est aujourd'hui. Et ben non. Hein. Et génial. On a fait le premier essai en mai 2017 et en juin, elle savait qu'elle était enceinte.
C'est génial.
Ouais, c'est assez génial. Ouais.
C'est même extraordinaire.
Alors, il semblerait que dans cette famille, il n'y ait pas trop de problèmes pour tomber enceinte.
D'accord.
Mais voilà, c'est quand même super, j'avoue.
Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, la grossesse s'est bien passée?
La grossesse s'est super bien passée. Elle a eu une grossesse franchement calme. Elle a eu un petit peu de nausée, mais rien de. Elle n'a pas été malade. Elle n'a pas eu besoin d'être alitée. Elle avait une grossesse assez zen. Donc on avait un suivi par une sage-femme que j'avais moi-même contactée. J'avais cherché à côté de chez nous avec un parcours qui, enfin une approche qui me plaisait, qui donnait beaucoup de place aux compagnons, aux conjoints, aux coparents, enfin appelle ça comme tu veux. Mm-hmm. Donc moi ça me plaisait parce que je voulais avoir une place dans cette grossesse. On a fait toutes les échos ensemble. Voilà, j'ai toujours été là quand elle avait rendez-vous chez la sage-femme et tout. On a tout fait bien ensemble. Mm-hmm. On a fait de l'autonomie pour me donner encore plus de place auprès de cet enfant. Voilà, elle a une grossesse vraiment chouette, vraiment très chouette.
Et est-ce que vous avez réfléchi ou pas, dans la mesure où de toute manière Cyril ne voulait pas s'investir, mais est-ce qu'il a participé un peu à la grossesse? Est-ce qu'il est venu sur des rendez-vous ou pas du tout et c'était votre grossesse à vous?
Non, c'était notre grossesse à nous. Il ne s'est pas du tout investi, on ne lui a pas spécialement demandé ou laissé de place pour ça. Ce n'était pas l'optique. Pour nous, je pense que... On n'en a même pas parlé, je pense que ça a été assez naturel pour chacun d'entre nous de se dire que, pour le coup, à ce moment-là, son job était fait, entre guillemets, et que les 9 mois de grossesse, c'était quelque chose qui nous appartenait à nous. Il était super content de voir Marie avec un ventre qui s'arrondissait, mais c'était pas son expérience à lui.
D'accord. Ce qui est cohérent avec sa décision et votre décision.
Ouais, c'est clair. Néanmoins, on savait aussi que il était important pour nous qu'il puisse être là quasiment à la naissance. Donc nous on a accouché. Donc Marie a accouché à la maternité des Lilas, qu'on avait choisi aussi parce qu'on voulait un cadre très très bienveillant. Qu'on en avait entendu beaucoup de bons échos auprès de gens qu'on connaissait qui avaient accouché. Ou voilà, on savait que c'était une maternité bienveillante.
Oui, on en entend souvent parler de cette maternité.
Ouais, c'est ça. On sait que un couple de femmes y est toujours bien accueilli, et donc il nous avait demandé de faire un projet de naissance, comme ça se fait beaucoup dans beaucoup de maternités, et on avait mis dans ce projet que donc on était les mamans de Gaspard, mais que néanmoins nous on connaissait son donneur, et qu'on voulait impérativement qu'il puisse avoir une place à la maternité. S'il voulait venir tous les jours, rester toute la journée, on voulait que ça soit possible. On voulait qu'il puisse être là quasiment à la naissance. Donc il s'avère qu'en dans les fêtes, il n'a pas assisté à la naissance de Gaspard, mais il est entré dans la chambre, donc dans la chambre de naissance, juste après. Oui. Et c'était important pour nous, tu vois, qu'il y ait ce lien. Enfin, la première photo de moi, Marie et Gaspard, c'est Cyril qui l'a prise, et Gaspard devait avoir, je sais pas, peut-être une demi-heure.
Oui, donc finalement, il a quand même pris son rôle, qui n'est pas un rôle dans la parentalité, enfin dans la maternité de Gaspard, mais il a quand même pris son rôle au sérieux. Enfin, ça lui a importé.
Il a pris son rôle au sérieux. Ah oui, non, ça lui importait. Ça lui importait, et toute la place qu'on pouvait lui donner, il avait bien l'intention de la prendre. Néanmoins, dans sa tête, je pense que dans la nôtre, c'était aussi, enfin, dans sa tête, et il l'a très bien exprimé à ce moment-là, il nous a toujours dit, c'est vous qui décidez. C'est vous les mamans de Gaspard, c'est vous qui me donnez le rôle que vous voulez me donner. Je prendrai tout, si vous me donnez tout, et si vous ne me donnez qu'un tout petit peu, je prendrai un tout petit peu.
D'accord, il était hyper respectueux.
Oui, il a été hyper respectueux et il l'est toujours, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas. Quand il a envie de faire quelque chose avec Gaspard, il demande s'il peut le faire. Et la réponse est franchement toujours oui. Et voilà, et à ce moment-là, c'était ça aussi, c'est-à-dire que c'était important pour nous qu'il puisse être là dès les premiers instants de Gaspard pour que justement ce lien qui crée leur lien à ce moment-là. Mmh. Et puis... Et puis qui nous voit aussi tous les trois créer le nôtre. Voilà, pour que à aucun moment dans le futur on se dise bah oui mais enfin tu vois qu'il n'y ait pas de doute qui se crée. C'était bien nous les mamans de Gaspard et lui avait son rôle à côté. Enfin c'est vraiment par exemple notre faire-part de naissance. Dessiné par une copine, tu vois sur le faire-part, donc c'est des petits renards qui avec un petit renard d'eau, c'est très stylisé, mais au moins tu as deux mamans renards, un petit renard d'eau, et en arrière-plan, tu as un autre renard caché derrière un arbre.
D'accord.
Donc il est là, il est sur le faire-part de naissance de Gaspard, mais il n'est pas au premier plan.
D'accord. Et est-ce que à un moment donné, vous avez discuté tous les trois de contractualiser ou de faire signer un papier de renoncement renonciation, pardon.
Alors, pas du tout. Pas du tout. Il était entendu entre nous qu'il ne reconnaîtrait pas Gaspard, mais on ne s'est pas senti obligé de lui demander, à contrario, de renoncer à ses droits. C'est-à-dire que lui nous a dit « ça n'est pas mon fils, donc je ne le reconnais pas ». et on n'a pas eu besoin de lui faire dire que ça n'était pas son fils. Voilà, donc il ne l'a pas fait. Je suis allée, moi, le lendemain de la naissance de Gaspard, déclarer la naissance à la mairie des Lilas. Et j'ai déclaré, donc je suis arrivée et j'ai dit « Bonjour, je viens pour déclarer la naissance du fils de ma femme. » et là, l'officier en face de moi, qui était une femme de la cinquantaine, qui devait avoir la cinquantaine, m'a dit « Écoutez, je suis vraiment désolée, vous ne puissiez pas le déclarer comme votre fils. » Et elle avait très bien compris la situation et c'est pas grave, voilà, je déclare la naissance du fils de ma femme et de père inconnu, voilà. Donc, il est son premier état civil, il a une maman et pas de papa. Et voilà, il a été déclaré de père inconnu.
D'accord. Ce qui vous a permis donc de lancer la procédure d'adoption. Vous l'avez lancée rapidement ?
Ah, mais si j'avais pu la lancer le lendemain, je la lançais le lendemain.
Évidemment.
Voilà, on a pris rendez-vous avec le notaire de famille de la famille de Marie, qui est dans l'Est à Nancy, on est allé, on a fait tous les papiers qu'il fallait, on en a profité pour faire, on va dire, des papiers un peu testamoniaux, comment on dit, enfin voilà, des sortes de donations au cas où, entre le moment où Gaspard naissait et le moment où je pourrais être vraiment sa maman, au cas où il arriverait quelque chose à Marie, on voulait que tout le monde soit bien protégé, donc on a fait tous les papiers possibles et imaginables, et j'avais imprimé, donc nous on n'a pas pris d'avocat, on a tout fait nous-mêmes, avec une espèce de boule au ventre quand même, en se disant, si ça se trouve, on fait une connerie, ils vont jamais nous accorder l'adoption.
Oui, ça on sait jamais, effectivement.
Ouais, c'était un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on savait qu'on pouvait le faire seul, que plein de gens le faisaient seul et que ça passait, mais on avait quand même, enfin moi surtout, parce que je pense que Marie a pas été aussi inquiète pendant toute cette période-là que moi, mais moi j'avais cette espèce de peur de me dire, mais ils vont jamais m'accorder mon adoption, en plus on connaît le donneur, ça va se savoir, ils vont jamais voir, voilà. Et en fait tout s'est super bien passé, voilà, on a fait rempli le dossier comme dans les temps comme il fallait, on a joint toutes les attestations de tout le monde, de toute la famille, de la nounou, du pédiatre, voilà, tout ce qu'on pouvait demander on l'a demandé, toutes les photos qu'on a pu mettre on les a mises, je pense qu'ils ont eu le dossier le plus épais du monde. J'ai écrit ma petite lettre manuscrite pleine de bons sentiments. Bonjour monsieur le procureur, je voudrais adopter mon fils. Et voilà, et j'ai un petit peu tardé à l'envoyer. Tout était bien prêt, hein, mais c'est juste que il y a ce truc de tant que tu n'as pas envoyé ton dossier, personne ne peut te dire non. À partir du moment où tu as envoyé le dossier dans la nature, tu ne sais pas ce qui va arriver.
Tout à fait.
Voilà, donc j'avais cette espèce d'appréhension, je me disais, non, tant que je l'envoie pas, il se passe rien, certes, mais il se passe rien de mal non plus. Et voilà, puis un jour, voilà, le 8 novembre 2018, j'ai posté l'enveloppe, et j'ai pris sur moi et je l'ai envoyée. Et au final, on n'a absolument eu aucun problème, ça a été long, tout simplement parce que, enfin ça a été long. Ça, je pense que ça paraît toujours très long, alors qu'en fait, ça n'est pas réellement. Mais en gros, donc, j'ai posté le dossier en début novembre. Et fin avril, alors qu'on devait partir tous les quatre, donc Marie, Gaspard, Cyril et moi, on devait partir 3 semaines à Bali. On voulait savoir si le document, enfin tu vois, si on n'allait pas être contacté dans l'intervalle. Et donc Marie a dit, bah, je vais appeler le tribunal. Voilà. Je vais dire, bonjour, on vous a adressé un document, on voudrait savoir où ça en est. Et donc, elle a appelé, et là, on lui a répondu, eh ben, écoutez, le jugement a été rendu le 15 avril, et c'est favorable.
Oh, excellent. Génial.
On a appris fin avril qu'en fait, ça avait été jugé, que c'était OK, qu'il y avait eu absolument zéro souci, et que c'était passé comme une lettre à la poste. Par contre, c'est après que ça a été long, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu le papier du jugement, quasiment très rapidement, parce que Marie avait dit, bah, si on pouvait avoir le jugement avant de partir, ce serait bien. Donc là, on avait bien envoyé les trucs dans les temps, mais par contre, ça a été très long entre la transmission entre le tribunal et la mairie. Alors, ça a pris vraiment du temps.
Ça prend du temps.
Ouais, mais tu comprends pas pourquoi le truc qui traîne sur le bureau du procureur, tu sais pas pourquoi. T'appelles le tribunal, j'ai appelé la mairie me disait, mais non, j'ai toujours rien, vous inquiétez pas, dès que je l'aurai, je vous assure, je fais ça dans la journée. Mais voilà. Et c'est là où ça m'a paru très très long.
Ouais. C'est sûr.
Et en fait, un jour, j'ai reçu un message effectivement de la mairie qui me disait « C'est bon, je l'ai. Je peux vous faire votre état civil. Vous pouvez venir le chercher et ramenez-moi votre livret de famille. »
Excellent.
Et ça, c'était cool.
Parfait. Tout à l'heure, tu me disais que Cyril avait une nouvelle compagne. Comment elle s'est inscrite dans votre projet ?
Oui. De façon très très naturelle, ils vivent pas ensemble, ils ont chacun leur appartement, ils sont assez indépendants, mais ils passent quand même beaucoup de temps ensemble, et il y a plein de moments où quand je débarque pour le café dont je t'ai parlé tout à l'heure, le petit café matinal, elle est là, et ça se passe super bien. Elle aime beaucoup Gaspard est en admiration ou je sais pas, ou amoureux fou d'elle, je ne sais pas. Il passe son temps à la réclamer. C'est très très rigolo. À un moment donné, on s'est même dit, parce que donc elle s'appelle Agathe, et on s'est dit, parce qu'il réclamait tout le temps Agathe, et on s'est dit, mais est-ce que pour lui, Agathe, c'est le lieu? Est-ce que c'est l'endroit où on va voir Cyril? Mais pas du tout. C'était bien Agathe, quoi.
C'était bien la personne.
Ouais. Et voilà, et c'est très naturel. Ça se fait vraiment de façon très naturelle. Ils ont fait des trucs tous les trois. Ils sont allés à la piscine. Cyril et Agathe l'emmènent au parc. Enfin, ils font des petites sorties tous les trois, et c'est absolument naturel. Et là, il s'avère que présentement Cyril est en Indonésie. Il était parti pour 2 mois, donc il est pas là. Et juste avant de partir, Agathe m'avait dit, mais tu sais, moi je veux bien continuer à avoir Gaspard, même si Cyril n'est pas là. Donc si vous voulez venir boire le café à la maison, ça me ferait très plaisir. Et puis peut-être même que si vous êtes d'accord, je pourrais l'emmener faire des sorties. Donc elle avait des idées de sorties qui se sont malheureusement pas faites confinement.
Voilà.
Mais voilà, elle avait envie de continuer à s'impliquer dans la vie de Gaspard, même si Cyril n'était pas là.
C'est vraiment génial. Hein.
C'est vraiment très naturel.
Ouais, c'est très bonne entente entre adultes consentants. Enfin, c'est excellent.
C'est ça. C'est très simple. En fait, c'est très simple. Il y a très peu de choses qu'on a besoin de... Je pense qu'on a eu besoin de formaliser les choses au tout début, vraiment sur le rôle parental. Qui aurait ce rôle parental? Qui seraient les parents? Comment? Et puis le fait qu'on vivrait dans des endroits séparés, parce qu'à un moment donné, enfin pour revenir un peu en arrière, mais à un moment donné on a pu évoquer, et sans doute parce que c'est moi qui l'ai évoqué, hein, mais on a pu évoquer le fait qu'on pouvait peut-être essayer de vivre dans le même immeuble, que Gaspard ait peut-être une chambre dans un endroit et un autre, enfin quelque chose de beaucoup plus formé, coparental. Et là Marie tout de suite, une barrière m'a dit non, ça, j'ai pas envie. J'ai envie de notre noyau familial. Et voilà. Et c'est des choses qui se sont dites au début et sur lesquelles, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de revenir. Ça se fait naturellement maintenant.
D'accord.
C'est vraiment simple. En fait, c'est simple. Voilà. Je pense que de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simple. Et je vous reconnais qu'on a beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on est tous les trois. Je pense qu'on est tous les trois préoccupés par le bien-être de Gaspard. Et oui, on s'entend bien. Voilà, je crois que c'est ça la clé.
Oui, c'est la clé, et c'est aussi ce qui va permettre à Gaspard de se construire sans se poser de questions. Il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de tension, non, tout est naturel.
Ouais, c'est ça, il n'y en a pas. Marie me disait, parce que juste avant qu'on enregistre là ce soir, je disais à Marie, il y a des trucs que tu veux pas que j'aborde. Elle me dit, bah, tu sais, moi, il y a plein de trucs qui sont des non-sujets. C'est-à-dire que pour elle, le fait qu'on soit un couple homo, c'est un non-sujet, on est un couple, point. Le fait que Gaspard ait un donneur connu, c'est un non-sujet, bah, il a un donneur connu, c'est comme ça. Voilà, il y a plein de trucs qui sont tellement naturels pour nous qu'en fait, ça ne pose pas question. Tout le monde est au courant dans notre famille. Quand on a dit qu'on allait se marier et avoir un enfant, on a mis tout le monde au courant. Quand on a décidé que le donneur, on le connaîtrait, on en a parlé à tout le monde. Je pense que ça a fait un peu bizarre aux parents de Marie, parce que eux se sont dit, ah ben c'est quand même un peu étrange, parce qu'ils vont avoir comme donneur l'ex d'une des... Bon, je pense que ça leur a fait un peu bizarre,
oui,
et qu'ils ont peut-être pu avoir peur pour leur fille, et donc pour le couple, enfin voilà, c'était sans doute pas naturel pour eux, mais ils se sont très très bien fait à la situation. Il y a plus de questionnement. Tout est dit, tout est assumé, tout est clair. On n'a jamais menti à Gaspard. On appelle pas parrain presque. Bon là, en ce moment avec le confinement et tout, on l'appelle quasiment tous les jours. Voilà, c'est comme ça. Je crois. C'est vraiment ça. C'est comme ça.
Oui, tout le monde l'a accepté parce que ça se passe de façon simple en fait. Donc c'est simple pour tout le monde. Ouais. Tout à l'heure, tu as sous-entendu que vous pourriez avoir d'autres enfants.
Oui. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, si je vois bien.
Tout à fait.
Oui. C'est Marie qui est encore une fois entre guillemets revenue à la charge. Marie, elle est une fratrie de 4. Elle a 3 frères et sœurs. Et en fait, je pense que elle s'est révélée mère à elle-même. Moi, j'ai jamais vraiment eu de doute sur le fait que ça serait une super maman, mais je pense que elle avait plein de doutes et de questionnements, tu vois. Elle savait pas ce qu'elle allait faire avec un bébé, elle savait pas si elle allait trouver ça rigolo entre guillemets, tu vois, les interactions avec, elle savait pas. Et en fait, elle se rend compte à quel point elle est bien avec Gaspard, à quel point on est bien tous les trois avec Gaspard. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas, et en ce moment, franchement, c'est pas facile. Mais dans l'ensemble, on se disait encore ça tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on regarde une vue d'ensemble de nos journées à l'heure actuelle, ben, au final, c'est des super choix de journée. Alors oui, il y a des grosses crises, oui, il y a du rejet de Gaspard envers moi et c'est difficile à gérer, mais au final, on est bien tous les trois et on a une dynamique qui fonctionne et elle se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on ait réussi à faire un petit être génial et qu'on puisse pas en faire un deuxième, voire je sais pas combien elle veut s'arrêter, mais voilà. Et dans son esprit, effectivement, venant d'une fratrie de 4, en fait, elle se rend compte qu'elle a pas envie d'avoir un enfant unique, qu'elle a envie que Gaspard puisse jouer avec un petit frère, une petite sœur, voilà, elle a envie de l'inscrire dans une fratrie. Et ben là encore, ça me repose un peu les mêmes questionnements que ceux par lesquels je suis passée avec la première grossesse, c'est-à-dire que ben ok, mais cette fois-ci je veux plus avoir 40 piges, je vais en avoir 43, 44, peut-être 45, et voilà, et je suis toujours dans ce questionnement de on va passer d'un ensemble qui fonctionne, oui, au quotidien, à qu'est-ce que ça va donner quand on va en avoir deux. Par ailleurs, je te cache pas que, comme je te le disais tout à l'heure un peu en off, que ben en ce moment c'est difficile pour moi avec Gaspard, qu'on traverse une phase qui est pas simple pour moi à gérer, parce que je me sens vraiment comme sa maman. Et que du coup me faire rejeter assez régulièrement par un enfant qui préfère l'autre maman, c'est un peu difficile à gérer. Alors les couples hétéros qu'on connaît, que ce soit des amis ou des voisins avec qui j'en parle un peu, me disent mais t'inquiète, hein, ça arrive aussi dans les couples hétéros, ça.
Oui, ça arrive dans tous les couples.
Mais paraît-il, oui, paraît-il. Moi, c'est un peu mon questionnement, tu vois, en me disant, mais on lui a donné deux mamans, est-ce que peut-être il a du mal à gérer ça? Est-ce que... Voilà, moi, je me pose beaucoup de questions au quotidien sur le bien-être et l'équilibre de mon fils, donc chez nous, tout est super facile, on n'a jamais eu... On n'a jamais subi de remarques... Pour l'instant, tout est passé super bien. La maternité, ça s'est passé super bien. La sage-femme était géniale. Notre pédiatre, elle est fantastique. Un jour, elle m'a même sorti « Oh, mais dites donc, il a un peu vos yeux, non ?» Et avant de se rendre compte qu'en fait, ben non,
c'est pas possible.
Voilà, elle me dit « Ah oui, j'avais oublié. » Voilà, tu vois, c'est tout est facile, quoi. Mm-hmm. Et néanmoins, moi, au quotidien, c'est pas toujours simple. Donc, je me dis « Est-ce que vraiment, j'ai envie de replonger ?» Et bon, et ben en fait, j'ai dit oui, j'ai dit d'accord, je veux bien un deuxième. Voilà, donc c'est prévu, on sait qu'on va en avoir un deuxième. Vu que je vais anticiper ta question, oui, on sait comment on va le faire aussi, le deuxième.
Et donc ?
Ben, on prend les mêmes et on recommence. Hein.
Allez, ça fonctionne bien comme ça. Et Cyril...
Et surtout, pour le coup, on se dit aussi, pourquoi est-ce qu'on donnerait à Gaspard l'opportunité de connaître d'où il vient et de créer un lien avec cette personne, et qu'on donnerait pas la même opportunité au suivant. Voilà. Pourquoi je pense vraiment que c'est un gros plus. Enfin, tu vois, je n'ai aucun jugement sur. Je pense que, comme tu as pu le dire plein de fois dans les podcasts, on vient tous avec une histoire personnelle, on choisit un mode de fécondation, on va dire, enfin
de conception.
Ouais, qui vient de quelque part, qui nous correspond à nous. Nous, ça nous correspond bien, ça fonctionne bien. En gros, il n'y a pas de raison que ça change, quoi.
Et Cyril, il a réagi comment ?
Il est partant à 100%.
Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial.
Ouais, il est partant à 100%. Quand je lui ai dit, bah écoute, voilà, Marie, elle aimerait bien un deuxième. Bon, moi, je me tâte encore un peu, je sais pas trop, mais voilà, les raisons qu'elle me donne, je les entends, et donc si jamais on en fait un deuxième, comment toi tu vois la chose? Il me dit, bah, on y retourne, quoi. Ok, bon.
Il y a une question que j'ai pas abordée encore avec toi. Est-ce que tu t'es sentie maman tout de suite, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement? Comment as-tu réagi
Je me suis sentie maman, on a regardé le test et j'étais maman, quoi. j'ai eu aucun doute. Enfin, j'ai parlé au ventre de Marie pendant les 9 mois de grossesse. Le jour même de... Enfin, la veille de la naissance de Gaspard, donc le jour où on est allé à la maternité, le matin même, j'étais en train de faire un truc en couture pour Gaspard, et je me souviens de m'être penchée sur le ventre de Marie et de dire à son ventre, bon, tu n'es pas aujourd'hui parce que maman n'a pas fini de coudre. je lui ai parlé, enfin c'était, ouais, c'était mon enfant dès le départ, quoi. Et il m'a écouté parce que donc il n'est pas né à ce moment-là. Je suis rentrée à la maison après ma journée de travail, j'ai fini de coudre ce truc-là, et une demi-heure plus tard, Marie avait ses premières contractions.
Oui, donc il t'a vraiment écouté en fait.
Vraiment écouté, voilà. Et voilà, on est arrivé à la maternité. J'ai été là tout le temps. On avait suivi une méthode donc de préparation à l'accouchement, qui est la méthode Bonaparte, que je ne sais pas le nom, qui donne effectivement pas mal de place au deuxième parent. Mais dans notre projet de naissance, on n'avait pas spécialement développé la partie de ce que moi je ferais quand Marie accoucherait. Et donc quand Marie est entrée dans la salle de naissance la sage-femme lui a dit, bon bah voilà, là ça va être le moment. Donc elle avait eu la péridurale, enfin bon, elle était bien dilatée et tout, et la sage-femme dit, bon bah maintenant ça va être le moment. Et elle se tourne vers moi, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Et moi, dans mon esprit, je m'asseyais derrière Marie, à califourchon sur le lit, je la prenais dans mes bras et tout, et j'étais en appui, en soutien derrière elle. Et là, sa femme m'a dit, mais vous n'allez... Ok, d'accord, mais ça veut dire que vous ne participez pas. Et j'avais pas réfléchi à ça comme ça, parce que dans mon esprit, je participais en étant un super soutien et tout. Elle me dit, mais vous voulez pas voir? Je dis, ben, bien sûr que si, je veux bien voir si je peux. Et voilà. Ben alors venez devant, vous allez lui prendre la main, vous allez lui parler, vous allez la voir, et puis vous allez mettre votre fils au monde. Enfin, parce qu'on savait que c'était un garçon. Donc, oui. Mettre votre fils au monde.
C'est génial.
Et là, je fais, waouh, ok.
Je peux faire ça.
Et voilà. Je peux faire ça, quoi. Et elle me dit, bah oui, je vais sortir la tête, parce que c'est le seul potentiel problème, et puis après, c'est à vous, quoi.
Oh, c'est génial.
Ok. Voilà, donc effectivement, dans les faits, j'ai mis mon fils au monde et je l'ai posé sur le ventre de Marie.
Oui, donc l'équipe médicale était hyper prévenante avec vous.
L'équipe médicale était hyper prévenante et ça a été un accouchement super. Cette nuit-là, on était les seuls à accoucher, il n'y avait personne d'autre. Donc on a eu toutes les sages-femmes du monde pour nous, enfin ça a été... Elles nous ont à la fois fichu la paix dans un sens où... Elles nous ont laissé dans notre bulle, elles nous ont dit, si vous avez besoin, vous nous prévenez, si vous voulez changer de salle, vous nous prévenez, vous avez toutes les possibilités de salle que vous voulez, là, il y a tout pour vous.
Excellent.
Donc, profitez. Et néanmoins, elles nous ont vraiment laissé dans notre bulle. Et puis, donc, quand Gaspard est né, la sage-femme a sorti la tête, j'ai vu une petite bouille toute fripée, toute pleine de cette espèce de magma rouge. Et puis je l'ai pris par les épaules et puis pouf, il était dans mes mains et d'un seul coup, enfin, tu sais, ce truc hyper naturel où bah il est venu tout seul, quoi. Je l'ai posé sur le ventre de Marie et là moi je m'attendais à ce que ça soit comme entre guillemets dans les films ou dans ce que tout le monde te raconte, bah c'est bon, il est né, il te l'envoie. la sage-femme l'emmène, va le nettoyer, va le peser, va le machin. Et là, la fille me dit, mais pas du tout. Là, vous allez le garder, oh, allez, une bonne heure. Hein. Allez. Ok, donc il est resté sur le ventre de Marie pendant ouais, bien vraiment une heure. Et c'est à ce moment-là que Cyril est arrivé, que voilà, il l'a découvert, qu'on a cette première photo qui est une superbe photo moche parce qu'on est toutes les deux fatiguées, défigurées. Enfin, Marie, elle est voilà, elle vient de donner la vie, qu'on a un tout petit être tout fripé et tout, mais qui est quand même la plus belle photo de nous trois. Mm-hmm. Et c'est Cyril qui l'a prise, et ça, je trouve ça fantastique. Et quand il a été question de donc d'emmener Gaspard pour quand même prendre ses voilà le peser, le mesurer, etc. La sage-femme me dit allez, vous venez. Et donc on y est allés toutes les deux, et c'est moi qui ai tout fait, c'est-à-dire que elle m'a donné le mètre, elle me dit voilà, vous faites ça comme ça, on va s'occuper du cordon, vous faites ça comme ça, et puis maintenant on va l'habiller parce qu'on n'a pas besoin de le laver, vous faites ça comme ça. Et c'était, bah c'était moi, quoi.
Voilà. Oh, c'est génial.
C'était, je pense que c'est la meilleure intronisation dans ton rôle de mère que, ou de père, peut-être, tu vois, voilà, dans le rôle de parent, que de te laisser faire les choses qui sont...
naturelles.
Qui sont naturelles, ouais.
Complètement.
Et c'était super. Voilà. Et voilà, et j'ai dormi sur place, j'ai dormi les trois nuits à la maternité. Alors j'allais bosser l'après-midi, mais je bossais pas les matins, donc j'ai passé beaucoup de temps à la maternité avec Marie, je dormais là-bas, on a dormi tous les trois sur ce petit lit d'hôpital pas du tout confortable. Il était hors de question pour nous que Gaspard dorme dans cette espèce de couffin en plastique sur roulette, là, donc, sur nous. On a fait du pot à pot en alternance, elle et moi, pendant trois nuits, enfin trois jours et trois nuits à la maternité, et c'était fantastique.
Oui, ça devait être génial, comme finalement
ouais,
l'ensemble de nos naissances. Est-ce que tu ouais. peux, je vais te poser une question que je pose maintenant de façon récurrente dans le podcast. Est-ce que tu peux me dire si tu penses qu'un enfant peut donc être heureux avec deux mamans et un paparin?
Ah ben écoute, en tout cas je l'espère bien parce que c'est la solution que j'ai choisie pour mon fils et j'espère qu'il est heureux. Tu sais, on le regarde très souvent avec Marie et on se dit, il a l'air d'aller bien. Voilà, c'est un enfant heureux, c'est un enfant joyeux, c'est un enfant rigolard, c'est un enfant qui adore l'aventure, qui adore découvrir. Ouais, c'est un enfant qui va bien, clairement. Et c'est pour ça que j'adore le titre de ton podcast. Ouais, nos enfants vont bien.
Oui.
Vraiment. Enfin, en tout cas, le nôtre, il va super bien. Et je pense que toutes les crises qu'on traverse à l'heure actuelle sont juste des crises normales de construction de sa personnalité. Et ce que j'apprends à découvrir de Gaspard tous les jours me fait penser qu'il va bien, ce môme.
Et c'est très certainement le cas, parce que nos enfants vont bien.
J'espère.
J'y crois complètement, je n'ai aucun doute là-dessus.
Ouais, je pense vraiment que... Enfin, vraiment, nous, c'est ça, Marie te dirait que pour elle, c'est un non-sujet, tu vois. Elle nous voit comme une famille normale, on est une famille. Voilà, il s'avère qu'on est deux mamans et que, oui, il n'a pas de papa au quotidien, mais il a cette présence géniale, qui en plus est un énorme plus, enfin... Voilà, qui dans sa construction va être un énorme plus.
Complètement, complètement.
C'est maman, deux fois plus de bisous. Voilà.
Exactement, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Eh ben, écoute, de continuer à s'apprivoiser tous les trois ou tous les quatre, parce que je mets souvent Cyril dans... Enfin, je sais pas si tu connais ce proverbe africain, je crois, qui dit qu'il faut tout un village pour élever des enfants.
Oui.
Et
c'est magnifique.
Ouais. Et je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que nous, on essaie de donner beaucoup de place aux grands-parents aussi. Enfin, on a des parents qui sont éloignés géographiquement, mais qu'on essaie de maintenir proche en termes d'amour et de présence envers Gaspard, donc voilà, on leur parle beaucoup, on passe pas mal de temps avec eux en week-end, voilà. Et pour Cyril, c'est pareil, c'est-à-dire que pour nous, c'est important qu'il soit là, qu'il soit dans la construction de cette famille qu'on veut être bienveillante, pleine d'amour. Voilà, j'ai envie que ça, j'ai envie que ça continue comme c'est déjà maintenant, c'est-à-dire une très chouette expérience à 3,5, on va dire, si on compte pas Cyril comme un entier, mais voilà. Et puis peut-être à 4 plus tard, ou 4,5 plus tard. Ou... Je ne nous espère pas des jumeaux, j'avoue. Je pense que là,
c'est une belle aventure.
On commence à faire pas de vie avec des jumeaux, mais ouais, j'espère qu'on continuera à avoir cette belle relation pleine de. On est très équilibrés, vraiment.
Écoute, c'est vraiment c'est vraiment ce qui ressort, enfin ce qu'on ressent dans ce que tu nous racontes dans votre histoire. C'est une histoire qui, enfin je sais pas, déjà que je trouve extrêmement touchante, mais surtout que je trouve effectivement très simple. Vous avez l'air d'être tous hyper épanouis dans cette histoire, et je pense que de fait Gaspard est épanoui dans votre histoire, et franchement je vous souhaite qu'une chose, c'est que tout cela ne change pas en fait.
Merci, c'est très gentil. Bah c'est un peu ce que, c'est pour ça que je suis un peu venue vers toi, c'est que je pense que souvent la potentialité d'avoir un donneur connu fait peur.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on se dit qu'est-ce qui va arriver à l'avenir, et je dis pas que je pense pas à l'avenir, hein. Je me dis que peut-être un jour on se brouillera avec Cyril et que ça va être compliqué, mais au quotidien, à l'heure actuelle, c'est juste génial. Voilà. Et j'espère donner cet espoir à des personnes qui sont à l'heure actuelle en train de se demander comment elles vont bien pouvoir faire un enfant. Cette possibilité-là existe. Je reconnais qu'il faut trouver la bonne personne et que c'est pas facile du tout, mais ça existe.
Oui, ça existe, et en plus de ça, ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est une opportunité, c'est une possibilité dont il faut tenir compte absolument, puisque comme tu le disais, ça a un coût qui est relativement différent du coup, parce que ça n'a pas de coût, la conception n'a pas de coût dans ce cadre-là, et ça change beaucoup de choses.
Oui.
Voilà. Je te remercie beaucoup, Barbara.
C'est bon, merci de m'avoir donné cette parole.
Je t'en prie, c'est normal. Franchement, ton histoire m'intéressait beaucoup parce que c'est pas fréquent qu'on ait des épisodes sur alors là, c'est pas de la vraie coparentalité, mais en tout cas sur un donneur connu qui intervient dans la vie de l'enfant. Et je pense que c'est très important de proposer cette possibilité-là et de la faire connaître.
Merci à toi.
Je t'en prie. À très bientôt, Barbara.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Barbara et Marie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my
My bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.